BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire cette semaine, eh bien, nous parlerons notamment de mobilité électrique avec tout d'abord cette mobilité à la française avec Ligier qui lance la Miley, sa première voiture sans permis mais électrique et elle est fabriquée en Vendée. Scooters électriques avec Stéphanie Gosset, la cofondatrice de The Way. The Way, ce sont des scooters électriques proposés en achat, en location longue durée, mais aussi avec surtout un système de recharge ultra rapide via des stations disséminées un peu partout à Paris. Et The Way, grâce à une levée de fonds de 27 millions d'euros, va se développer dans d'autres grandes villes françaises et peut-être même européennes. Autre invité de cette émission en duplex depuis la région de Montpellier, François Potier, le directeur exécutif d'Exaprint. Exaprint, c'est un des plus anciens spécialistes de l'impression en ligne en France. L'entreprise fête ses 25 ans et est en plein développement avec 30 millions d'investissements sur 5 ans. Mais tout d'abord, dans l'actualité de ces derniers jours, eh bien, le redémarrage de l'usine Duralex à la Chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. La production des célèbres verres français avait été arrêtée en novembre dernier à cause des prix exorbitants de l'énergie. Depuis, les contrats avec les fournisseurs ont été renégociés, les fournisseurs d'énergie. L'État, lui aussi, a permis à l'entreprise de tenir le coup pendant ces 5 mois d'arrêt forcé. Quant aux 250 salariés, eh bien, ils ont été placés en chômage partiel. Duralex en a d'ailleurs profité pour accélérer sur la formation et les process de production ont également dû être modifiés. Et bien, le matin même de la reprise d'activité, José Luis Lacuna, le président de Duralex, était venu en parler sur le plateau de Good Morning Business.
Ce qu'on a fait surtout, c'est investiguer et développer au maximum, d'un côté, l'efficience énergétique, comment faire pour produire la même quantité avec moins d'énergie, et d'autre part, notre responsabilité de décarbonation. On a initié beaucoup de projets pour être au rendez-vous de ces deux
sujets. Et ça nécessite de gros investissements d'adapter ces processus de production
pas, pour le premier 20%, on peut le faire de façon empirique, pas besoin d'investissement. À partir au-delà, ça commence à être plus compliqué et on a besoin vraiment de capitaux pour pouvoir être beaucoup plus efficient.
Pour ceux qui sont avec nous en télévision sur RMC Découverte, la chaîne 24, on voit, on est en direct de la tour de contrôle chez vous, des fours qui est en train de se rallumer. On voit les salariés, ils sont 240, ils étaient au chômage partiel. Comment ça s'est organisé? Ils ont été formés, ils ont fait quoi pendant tout
on
ce
temps? On a fait pendant cette période 4000 heures de formation. Et il y a eu quand même 70 personnes sur les 250 qui ont été en permanence là-bas pour pouvoir assurer la continuité. Ils sont formés aux éléments techniques. Ouais. Il y a beaucoup de... On est en train d'embaucher quand même, parce qu'on est aujourd'hui en train d'embaucher 20 personnes additionnelles pour pouvoir produire les quantités qui sont nous sont demandées aujourd'hui. Et on a beaucoup d'éléments dans tous les domaines de formation qui sont importants pour eux. Et je pense qu'ils sont très reconnaissants et très contents.
Ouais. Vous produisez combien de quelle quantité de verres par mois? Donnez-nous
quelques... On devrait produire 100 millions de pièces par
100
an.
100 millions.
De ces beaux verres. Picardie, un grand...
Vous aviez bénéficié d'un prêt de 15 millions d'euros justement pour aider le Made in France. Ce prêt, vous commencez à le rembourser, il est différé, ça va se passer comment?
Il est différé pour l'instant. C'était comme a dit monsieur le ministre, il nous a aidé, il nous aide à passer l'hiver. Mais c'est de l'argent qu'on administre correctement pour pouvoir... Vous savez, on a payé l'année passée 10 millions en énergie quand on aurait eu en payé 3. Donc une partie de cet argent est quand même partie là.
Mais est-ce que vous avez l'impression que la boîte qui rouvre ses fours aujourd'hui, c'est presque plus la même? C'est-à-dire qu'il se passait beaucoup de choses pendant ces 5 mois. Des projets de décarbonation que vous n'aviez pas, des contrats d'électricité qui sont nouveaux. Vous n'êtes plus la même boîte.
Il y a un avant et un après. Et surtout, je vois l'optimisme des équipes. L'envie de progresser et l'envie de réussir. Et ça, c'est le gros changement. Et comment ces 250 collaborateurs ont tenu pendant 5 mois? C'est l'amour à la marque. C'est l'amour au métier. Et heureusement qu'on en est là pour reprendre, parce que les équipes en avaient vraiment besoin et j'en suis très reconnaissant.
Voilà donc la reprise de l'activité pour les 250 salariés de l'usine Duralex, l'usine de verre dans le Loiret. Et vous le savez, à propos de verre, eh bien nous sommes ici à La France à tout pour réussir plutôt partisans des verres à moitié pleins que des verres à moitié vides. Encore un exemple avec les perspectives d'embauche 2023 en France. Elles restent stables avec 3 millions d'embauches prévues cette année selon Pôle emploi. Les détails des chiffres avec Sofiane Aklouf.
Pôle emploi nous dit donc que plus de 3 millions d'embauches sont prévues cette année en France, Sophia.
Oui, et c'est un volume quasi équivalent à celui de l'année dernière, moins 0,2%. Autant vous dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Au total, près de 3 entreprises sur 10 prévoient d'embaucher en 2023, et principalement des emplois en CDI, dans plus de la moitié des projets de contrat. Alors évidemment, on va s'amuser à regarder le top des métiers qui recrutent le plus. Sur la première marche du podium, les serveurs de cafés et de restaurants. Là, évidemment, on vit le rattrapage du post-Covid avec 120 000 embauches potentielles. Deuxième, au coude à coude, les viticulteurs et les cueilleurs. Mais là, attention, on parle principalement d'emplois saisonniers. À la troisième place, les employés de cuisine, et suivi au pied du podium par les agents d'entretien. Sans surprise, en fait, les métiers du soin, de façon générale, sont en recherche de main-d'œuvre. Et dans chacun de ces quatre secteurs, à chaque fois, plus de 100 000 embauches sont prévues cette année.
Bon, donc ça, c'est pour les métiers. Quel type d'entreprise et de secteur d'activité vont être les plus dynamiques et les plus demandeurs de postes?
Eh bien, ce sont surtout les petites entreprises qui ouvrent leurs portes aux nouveaux arrivants. Selon l'étude, c'est quasiment un projet d'embauche sur deux qui est porté par des entreprises de moins de 10 salariés. C'est d'ailleurs la seule catégorie qui prévoit de recruter plus cette année que l'année dernière. Puisqu'à l'inverse, le nombre de projets d'embauche des entreprises de plus de 200 salariés, lui, dégringole de 8% entre 2022 et 2023. Quant au secteur qui recrute le plus, eh bien, c'est les services qui accaparent près de 2/3 des projets, loin devant le commerce en chute, l'industrie et la construction.
Et dernière question, Sofiane, où est-ce qu'on recrute le plus en France cette année?
Eh bien, en Île-de-France et dans le Sud, sans surprise. Mais attention, on observe des dynamiques de recrutement très variables cette année selon les régions, avec un nombre de projets en hausse de 11 à 12% en Normandie et dans le centre Val-de-Loire. À l'inverse, il chute dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France.
Voilà donc pour les perspectives d'embauche en 2023. Sofiane le disait à l'instant, on embauche dans le sud de la France. Eh bien, direction précisément Montpellier, précisément Moguio à côté de Montpellier, où notre invité nous dira peut-être s'il embauche ou pas. Bonjour François Potier.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le directeur exécutif d'Exaprint, leader français de l'impression en ligne. Alors on va parler de vos 25 ans, puisque ça fait 25 ans que les activités existent à Moguio, et de l'agrandissement également de vos locaux, de vos différents projets. Rappelez-nous tout d'abord le cœur d'activité d'Exaprint. C'est quoi l'impression en ligne? C'est quoi le web to print en mauvais français?
Le web to print, ça consiste tout simplement à fournir des supports de communication qui soient, si possible, attractifs et innovants à nos clients pour mettre en valeur leur savoir-faire et permettre leur développement. Donc, très concrètement, notre métier, c'est d'imprimer des cartes de visite, des affiches, mais aussi des badges, toute une gamme de produits qui sert à valoriser les différentes marques.
Parce que j'ai vu donc aussi ce qu'on appelait alors peut-être des mâches ou des goodies. J'ai vu aussi des gobelets, des pailles, des totems, des boîtes d'emballage. Vous êtes aussi en pleine diversification dans votre offre côté produits.
Oui, absolument. Donc notre particularité, c'est que nous servons depuis l'origine un marché de professionnels. Et effectivement, le propre des professionnels, c'est d'avoir des besoins qui soient assez larges. Et notre vocation, c'est de pouvoir leur apporter tous les types de produits dont ils ont besoin. Donc l'essentiel des produits est fabriqué ici dans notre usine de Montpellier, mais on souhaite pouvoir, à l'aide d'un réseau de partenaires, leur fournir également d'autres produits un peu plus spécifiques s'ils en ont besoin.
Donc Exaprint fête ses 25 ans, création en 1998 par Philippe Dupuis. J'ai envie de dire, il fallait être sacrément visionnaire il y a 25 ans, c'était les tout débuts du web, pour se dire que l'impression en ligne et que surtout le métier d'imprimeur allait évoluer à ce point.
Absolument, il fallait être visionnaire et c'était même en 98 avant véritablement l'essor du web. Et la première vision de Philippe Dupuis, ça a été celle de mettre sur catalogue des produits imprimés, puisque en fait avant Exaprint, lorsque vous aviez besoin d'un jeu de cartes de visite, vous alliez chez votre imprimeur, vous lui demandiez un devis et pour chaque commande, il vous faisait un devis. Philippe a eu le premier l'idée de mettre ses produits sur catalogue avec en standardisant les offres. Et c'est quelques années après qu'avec l'irruption du web, ce catalogue est venu sur Internet et c'est là que le décollage de l'entreprise a commencé.
Le décollage aussi, est-ce qu'il a été plus accéléré peut-être en 2015? Je crois que c'est l'année où vous avez été intégré au groupe américain Cimpress. Ça veut dire aussi que vous étiez avec d'autres marques que l'on connaît bien, donc aussi la marque Vistaprint Sprint. Qu'est-ce que vous a apporté en 2015, donc il y a 8 ans, cette intégration au groupe Cimpress? Ça a été un moment à la fois d'accélération, peut-être un peu compliqué pour l'entreprise?
Alors, c'était clairement un moment important pour l'entreprise. Mais il faut savoir que le groupe Cimpress a pour vocation d'intégrer des entreprises, mais sur un mode très autonome. Et donc, en fait, cette intégration s'est passée pour nous, pour le mieux, dans la mesure où elle nous a apporté un certain nombre de moyens, en particulier des moyens technologiques qui sont très importants dans notre métier et de plus en plus. Hein, le e-commerce est un métier maintenant de gestion de la data, ce qui implique d'énormes investissements en technologie, et un groupe comme le groupe Cimpress, évidemment, a des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux d'une entreprise comme Exaprint quand elle était autonome. L'intégration dans le groupe nous a également évidemment permis de profiter d'un certain nombre de synergies, notamment en matière d'achat, ce qui est particulièrement bienvenu dans la période qu'on vit, puisque depuis quelque temps, comme vous le savez, on est sujet à une forte inflation sur le coût des matières premières. Donc je dirais que le bilan de cette intégration, effectivement, alors de façon probablement assez surprenante pour certains, le bilan de cette intégration dans un groupe américain coté au Nasdaq est très positif.
Alors ces 25 ans donc, ils sont marqués par une extension. Vous êtes, je crois, juste dans ces nouveaux locaux qui ont été inaugurés il y a quelques jours. En fait, c'est un regroupement de toutes vos équipes sur le site historique de Moggio, une extension de 1600 m², si je ne me trompe pas.
C'est tout à fait juste, c'est ça. Historiquement, en fait, nos activités de production étaient séparées de notre activité de gestion de notre site internet. Alors de quelques kilomètres, hein, puisque l'activité de gestion du site internet était dans Montpellier. Mais en fait, ces quelques kilomètres, ça fait toute la différence avec une société qui soit intégrée. Et le fait aujourd'hui de regrouper toutes les équipes sur le même site, ça va nous apporter énormément en matière de synergie entre les équipes, de décloisonnement, de capacité aussi pour les équipes à se comprendre, puisque la beauté de notre métier, c'est qu'on allie à la fois un côté extrêmement moderne avec le e-commerce et donc les profils et la culture qui vont avec, mais aussi un côté traditionnel auquel on tient beaucoup, qui est celui de l'imprimerie.
Donc un site global de 10 000 m². Combien de personnes travaillent sur le site français? On parlera du site espagnol dans quelques instants.
On est aujourd'hui 300 personnes à Montpellier en tout, avec les 120 personnes qui viennent de rejoindre les équipes de production à Moggio.
Et donc un site espagnol, je crois qu'au début des années 2010, une antenne a été ouverte à Barcelone.
Absolument, le marché espagnol est un marché à la fois de proximité pour nous et un marché très intéressant en termes de développement. C'est la raison pour laquelle effectivement on a créé Exaprint.es en 2010, en s'appuyant sur un partenaire local à Barcelone, et l'entreprise s'est développée là-bas depuis.
On parlait des perspectives d'embauche dans un sujet il y a quelques instants. Vos perspectives d'embauche à vous, est-ce qu'il y a d'autres embauches prévues sur le nouveau site dont on parle aujourd'hui?
Effectivement, on est aujourd'hui au cœur d'un plan d'investissement sur notre outil de production. Après avoir complètement renouveler notre parc d'impression offset, on a prévu dans les 3 prochaines années de renouveler notre parc d'impression digitale. Donc ça implique évidemment des embauches pour conduire les presses.
Combien
Combien d'embauches prévues? On est sur une vingtaine d'embauches par an en ce moment.
Mm-hmm. Et un mot donc sur ce plan d'investissement, il est massif, je le disais dans les titres, 30 millions sur les années 2020 à 2025, donc renouvellement du matériel, embauche, vous en avez parlé. Parlez-nous juste un mot, il nous reste quelques secondes, de Exalink, c'est la plateforme que vous lancez également à l'occasion de ce 25e anniversaire.
Oui, bien Exalink, effectivement, ça fait notre actualité en ce moment. Exalink, c'est un service qui vise à permettre à tout client PME qui souhaite développer sa communication, bien d'avoir accès à une plateforme sur laquelle il va trouver l'intégralité des services qui sont nécessaires à la conception, la création et la production de sa campagne de communication. Donc on s'appuie en fait sur notre base de clients fidèles, de clients professionnels, agences de communication qui nous font confiance depuis de nombreuses années pour que celles-ci puissent proposer à des PME leurs services afin, encore une fois, que ces PME n'aient pas à aller chercher je dirais les diverses compétences dont elles ont besoin pour leur communication auprès de plusieurs intervenants, mais être un seul point d'entrée pour trouver la solution à leurs besoins.
Alors besoin et alors demande. Merci beaucoup à François Potier d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. On voulait faire un zoom sur Exaprint à l'occasion du 25e anniversaire de l'entreprise. Merci beaucoup. Deuxième partie donc de l'émission consacrée à la mobilité électrique. Dans un instant, on parlera de scooters électriques et de stations de recharge avec Stéphanie Gosset, la cofondatrice de The Way, qui est en plateau avec moi. Mais avant cela, eh bien, on va parler de Ligier, un nom mythique de l'automobile en France, désormais spécialisé dans les voitures, les véhicules sans permis. En septembre dernier, je recevais François Ligier, qui est le petit-fils d'ailleurs de Guy Ligier. Il nous annonçait le lancement pour 2023 de Miley, sa première voiturette sans permis. Eh bien, c'est désormais chose faite. On va écouter François Ligier dans un instant, mais tout d'abord tout ce qu'il faut savoir sur Miley avec Nathan Cocampo.
Couleurs vives, design copié au SUV, tablette tactile, mais surtout jusqu'à 192 km d'autonomie sans rejeter de CO2. La Miley, fabriquée en Vendée, tranche radicalement avec les modèles sans permis existants, comme l'explique son constructeur François Ligier.
La voiture sans permis avait une image un peu ringarde, parfois avec un style désuet. Un style en tout cas qui voulait être le plus discret possible parce que nos clients ne voulaient pas être identifiés. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On a une clientèle qui est fière de son statut, qui est fière de sa voiture, qui l'assume pleinement. Eh bien, Miley accompagne ce nouveau design, accompagne cette nouvelle envie.
Ce nouveau modèle électrique est proposé entre 12 000 et 18 000 euros selon les options. La cible, les adolescents et les personnes âgées proches des villes. Et la demande est bien là. Le marché croît d'environ 10% par an depuis 10 ans selon le constructeur.
Nous fabriquons à peu près 20 000 véhicules par an. Cette année, Miley va représenter un peu plus de 2000 véhicules dans notre offre portefeuille. Évidemment, si nos clients souhaitent en acheter plus, nous serons complètement capacitaires pour accompagner la croissance du marché. Et puis Miley va être stratégique dans notre futur. Miley et les autres gammes électriques qui arriveront au sein de notre offre. L'objectif est d'avoir 50% de notre offre en électrique d'ici 4-5 ans.
Aujourd'hui, avec ses autres modèles made in France, Ligier réalise 192 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'ici à 5 ans, l'objectif pour le constructeur est de doubler de taille.
Vous échappez pas à la comparaison avec l'ami de Citroën qui est sorti il y a 3 ans. Elle est dans quel pourcentage plus cher aujourd'hui?
Eh bien, une ami doit coûter autour de 8 000 euros, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc, je vous ai dit 11 500 euros pour notre premier prix. Donc, un peu plus cher, évidemment.
Mais des produits. Et vous, les made in France? Alors la Mi de Citroën, elle est construite au Maroc, je crois, c'est ça?
Je crois, effectivement. Ouais. Notre véhicule est fabriqué en Vendée. Ouais. C'est un véhicule dont on a fait le choix qu'il soit équipé. Et donc, le client peut le personnaliser, peut l'optionner. Il a un grand coffre. Il a un véhicule qui est facile à utiliser, avec la direction assistée, la climatisation, des choix d'autonomie qui sont multiples, de 60 à 190 km. Voilà, offrir à notre client un choix bien plus large.
C'est l'anti-boîte à savon. On parle plus de ça maintenant, c'est fini.
Non, du tout, depuis pas mal de temps. Maintenant, au contraire, je pense qu'on a un client qui aujourd'hui est fier de son produit et qui l'assume pleinement.
C'est une batterie, ça marche comment?
Alors, c'est un véhicule électrique, donc il a un moteur électrique pour entraîner sa traction, et puis des batteries qui lui permettent d'atteindre une autonomie plus ou moins forte, et bien suivant l'option que l'on va prendre, un premier niveau de batterie qui permet de rouler 60 km, un deuxième niveau 130 km, puis un troisième 190 km.
Ouais. Et vous dites c'est un marché qui progresse depuis des années d'environ 10% par an et qui va continuer de progresser encore parce que nouveau public, parce que aussi on en parle de plus en plus, difficulté à passer son permis. Est-ce que ça joue ça notamment aujourd'hui?
Alors notre marché effectivement est en croissance forte par la diversification de ses clients, on en a parlé, par la diversification géographique aussi, nous vendons partout en Europe, et puis parce que notre produit se transforme, notre produit est de plus en plus désirable et nos clients identifient ce produit comme une solution de mobilité à part entière.
Bonjour Stéphanie Gosset.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes directrice générale et cofondatrice de The Way. Alors, est-ce qu'une collaboration, puisque vous êtes sur l'électrique aussi, une collaboration avec les voiturettes de Ligier est envisageable l'un jour ou l'autre?
Eh bien, écoutez, pourquoi pas, puisqu'on vient effectivement de réaliser une levée de fonds. Et l'un des axes stratégiques de cette levée de fonds, c'est effectivement d'ouvrir notre réseau de stations d'échange qui permet une recharge instantanée à d'autres véhicules. On s'est lancé initialement sur le scooter électrique. On réinvente la mobilité urbaine, hein, avec donc une gamme gamme de scooters électriques qui se rechargent en 50 secondes en échangeant sa batterie vide contre une plaine.
Donc on va sur des bornes de recharge, hein, voilà, c'est ça.
Voilà, qui, tout à fait.
Et on change sa
exactement.
Propre batterie.
Hein, vous arrivez, on vous indique via votre app la station d'échange la plus proche, donc dans un magasin de proximité qui peut être un Monoprix, une station Esso, le sas d'une banque BNP Paribas, EFIA. On a aujourd'hui plus de 40 stations. Et vous allez être reconnu automatiquement et vous n'avez plus qu'à mettre votre batterie vide dans une case vide, une autre case s'ouvre et vous repartez avec une batterie pleine. Donc en 50 secondes, finalement, vous avez fait votre plein. Donc ça, c'est vrai pour toute notre gamme de scooters. Aujourd'hui, on a plus de 6 modèles, donc des équivalents 50 cm3 et 125 cm3. Mm-hmm. Et l'un de nos axes stratégiques, pour revenir à votre question initiale de Ligier, effectivement, c'est d'ouvrir ce réseau de stations d'échange à d'autres véhicules, du vélo cargo jusqu'à la mini-voiture.
Alors, on verra l'ouverture à des vélos cargo dans quelques instants. Donc, vous parlez voilà, d'une gamme. Donc, ça va de scooters traditionnels deux roues à des trois roues. Maintenant, vous avez lancé la gamme Triango, c'est
tout
ça?
Tout à fait, oui. On vient de lancer notre trois roues qui s'appelle voilà. effectivement Triango Plus, qui est un équivalent 125, qui va avoir donc deux batteries que vous allez swapper, toujours rechargeables en 50 secondes, et commercialisées sous forme, tous nos scooters en fait sont commercialisés sous forme d'un abonnement tout inclus.
Voilà, et ça permet, voilà, parce que souvent les freins quand on a besoin d'un un véhicule, et quel qu'il soit, c'est évidemment donc la recharge quand c'est de l'électrique, mais c'est aussi l'acquisition, c'est la maintenance, c'est l'assurance, et vous proposez des offres, entre guillemets, all inclusive.
Exactement, donc c'est des offres sans surprise, donc on a déjà levé la contrainte avec le swap de batterie, cette recharge instantanée, de la recharge et de l'autonomie, et avec l'offre tout inclus, en fait, vous allez avoir la location de votre scooter, vous allez avoir un kilométrage illimité, vous allez avoir accès illimité à ce fameux réseau de stations d'échange où vous allez pouvoir swapper votre batterie, donc faire votre recharge en 50 secondes, mais aussi la maintenance et l'assurance.
Et tout ça pour combien?
Et tout ça, donc suivant la gamme de scooters que vous avez, notre premier modèle qui est Swapper One, ça sera 130€ par mois. Et le scooter 3 roues, vous serez à 205€ par mois, donc tout inclus, donc sans autre coût. Vous avez votre coût de mobilité connu à l'avance.
Cette offre, donc, elle est actuellement accessible sur Paris uniquement et l'approche couronne. Combien de scooters avez-vous vendus via cette offre?
Alors aujourd'hui, on a plus de 1000 scooters en fait, hein, qui roulent et qui swapent dans notre réseau de plus de 40 stations. On a franchi en début d'année le cap des 100 000 swaps. On fait aujourd'hui plus de 5 000 swaps par semaine. Donc on valide vraiment ce nouveau geste mobilité qui est cette recharge instantanée. On a nos scooters aussi bien dans la catégorie 50 cm3 que 125 cm3 qui ont pris aussi une part de marché des nouveaux véhicules électriques immatriculés, scooters électriques immatriculés qui est bonne. Hein. On a un particulier sur 5 qui fait le choix de la solution The Way. Swapper One et Swapper X, donc dans la gamme de 50 cm3, sont premiers et on est aussi en pôle position du côté des 125 cm3.
Et quand on est à Paris, le gros avantage, c'est que maintenant, le stationnement est gratuit pour les scooters électriques et en plus, ça peut être le financement dont on parlait, les 130 à 205€ par mois, ça peut être pris en charge dans certains cas et chez certains employeurs, et ça compte aussi, évidemment.
Oui, vous avez le forfait mobilité durable qui va vous permettre de réduire encore votre coût de mobilité. Et vous avez effectivement un stationnement gratuit, c'est-à-dire que pour le coût d'un stationnement libre en scooter thermique, vous pouvez vous offrir en fait notre premier scooter qui est Swapper One avec une totale liberté à la fois parce que recharge instantanée mais aussi parce que stationnement gratuit.
Ça compte. Et voilà. Ça compte. Vous parliez d'une levée de fonds il y a quelques semaines de 27 millions d'euros qui intervient après une de 15 millions d'euros, c'était je crois en 2020. Ça va vous servir à quoi ces 27 millions? Quels sont les objectifs maintenant de développement?
Alors les objectifs de développement, on a deux axes. On a l'axe qu'on a commencé à évoquer ensemble, donc qui est justement d'ouvrir notre réseau de stations d'échange à d'autres véhicules, donc pour leur ouvrir cette recharge instantanée, donc pour libérer en fait et faciliter hein, l'usage de l'électrique, donc du vélo cargo jusqu'à la mini-voiture. Bien entendu, on discute aussi avec des constructeurs de scooters, d'autres marques, de marques tiers. Et on a l'axe du déploiement géographique. Donc notre objectif à
sur 2023,
terme, voilà, sur 2023, c'est de doubler notre réseau de stations d'échange à Paris pour atteindre les deuxième et troisième couronnes. Donc couvrir
vous en avez une quarantaine, vous visez les 80 d'ici la fin d'année
avec un déploiement d'une vingtaine à très court terme sur le mois de mai et d'ouvrir d'autres villes en province.
Alors lesquelles?
Alors Nice de façon imminente puisqu'on doit rentrer à Nice dans le mois on va dire prochain, puis Bordeaux.
et puis l'Europe éventuellement, les objectifs en 2024, entendu. Je crois.
Oui, 2024, donc l'idée c'est également d'être dans deux autres capitales européennes.
Que vous avez identifiées déjà ?
Alors certainement une en Espagne et une en Italie, et donc Madrid et Milan par exemple seraient des bons candidats de par leur volume de parcs de scooters existants. Donc voilà, on pense qu'amener la recharge instantanée dans ces pays fait également sens pour révolutionner cette mobilité urbaine.
Les bornes de recharge, elles sont à votre charge ou ce sont les établissements qui les accueillent, qui les prennent à leur charge, ne serait-ce qu'en fabrication, entretien aussi, est-ce que c'est votre charge ?
Alors non, ça on a designé en fait ces stations d'échange, on les opère et on les place, donc en fait on réserve un emplacement en fait dans ces points de proximité dans la ville. Et ce qu'on amène par contre à ces différents réseaux qui vont accueillir nos stations d'échange, c'est vraiment un flux de clients, un flux d'actifs, et c'est ça qui les intéresse.
Parmi les pistes de développement, vous les avez dites, c'est de proposer ça à d'autres constructeurs et notamment les vélos cargo. Vous nous annoncez d'ailleurs une collaboration avec Cariole, société qu'on connaît bien, qu'on suit depuis très longtemps, qu'on a reçu il y a quelques mois avec Nicolas Duvaux. Vous vous associez donc avec Cariole.
Oui, tout à fait. Alors Nicolas Duvaux et l'équipe Cariole, fort sympathique, start-up comme nous, si je puis dire. Et on sort donc la première Cariole powered by the way, donc c'est-à-dire qu'en intégrant la batterie the way dans la Cariole, on lui permet aussi d'avoir accès à cette recharge instantanée. Donc forcément, je dirais, quand on a une utilisation intense, puisque cette carriole, elle est utilisée notamment pour tout ce qui est livraison du dernier kilomètre, le temps est directement lié à la performance, donc c'est un gain de temps directement, un gain d'argent. Donc là, pour l'organisation des tournées, vous n'avez plus besoin d'avoir les fameuses 4 heures de temps de recharge, donc d'immobilisation. Vous allez avoir ces 50 secondes de recharge instantanée. Donc une cyclo-logistique ultra performante en powered by the way.
Il nous reste 10 secondes, Stéphanie Gosset. Pourquoi les batteries ne sont pas du made in France? On a une vallée de la batterie qui est en train de se construire dans les Hauts-de-France. Pourquoi pas aller les chercher là?
Je vous retourne la question. Pourquoi pas? Pour ça, en fait, la première étape, c'est déjà que toute la partie infrastructure, elle soit européenne. C'est-à-dire si vous avez déjà l'infrastructure qui est européenne, là, vous avez une chance de pouvoir tracer vers une filière de batteries européenne. Et c'est vraiment ce qu'on vise. C'est notre ambition.
C'est ce que l'on visera aussi. La France et l'Europe ont tout pour réussir. Merci beaucoup, Stéphanie Gosset, d'avoir été l'invité de notre émission. La semaine prochaine, on parlera encore de mobilité avec Ulysse, une autre entreprise qui fête ses 25 ans. C'est le premier réseau français de transport et d'accompagnement des personnes à mobilité réduite. La France a tout pour réussir. C'est le vendredi à 14h30, c'est le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux et tous les supports digitaux. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.